Voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. C'est que chacune et chacun, nous pouvons vraiment compter sur l'amour fidèle de Dieu. Il ne nous laissera pas tomber. Chacun est comme s'il était son unique enfant, l'unique enfant de Dieu. Et donc que chacun et chacune d'entre vous soit assuré par cette fidélité de Dieu, par sa grâce et par sa paix qu'il nous donne. Que chacun se sente ici comme chez lui, dans cette maison où nous sommes venus pour rendre un culte à ce Dieu qui nous donne la vie, pour nous ouvrir à sa présence et pour découvrir peut-être ce qu'il veut nous offrir aujourd'hui. Alors bienvenue à ceux qui découvriraient peut-être la foi chrétienne à l'occasion de ce culte. Et nous avons la joie d'accueillir des jeunes d'une école du sud-ouest de l'Angleterre, donc Milton Abbey. Si vous voyez les photos, c'est une ancienne abbaye au milieu d'une grande pelouse dans la campagne. C'est absolument magnifique. Et donc, welcome to you. Thanks for coming here, to being here with us for this morning, for this worship service. Cet après-midi, ils seront donc à la messe à Saint-Eustache, je crois. Et donc, ils ont choisi de venir rendre visite donc, aux chrétiens de Paris et nous réjouir avec leur chant. C'est vrai que ça peut nous rendre un peu jaloux, le niveau des jeunes en Angleterre, en Allemagne, est quand même plutôt élevé, je pense, par rapport à ce que nous avons comme niveau en France. Donc, ça peut nous booster un peu. Alors nous nous présentons devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français, « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour ».
C'est Éléonore et Charlotte qui nous conduisent dans la louange.
Trois hommes qui passaient dans la chaleur du jour, tu as annoncé à Abraham une naissance qui tardait. Nous te louons. Dans un combat nocturne au bord du torrent, tu as rencontré Jacob et tu lui as donné un nouveau nom. Nous te bénissons par un rêve au fond d'une prison. Tu as parlé à Joseph et tu l'as délivré de la cellule où il croupissait.
Par un buisson d'épines qui brûlait sans se consumer, tu as appelé Moïse et tu l'as envoyé libérer le peuple d'Israël. Et par la nuée au cœur d'un désert, tu as montré à ton peuple le chemin de la liberté. Nous te rendrons grâce. Nous te louons par ton Fils Jésus-Christ. Tu as rejoint notre humanité. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as proclamé aux captifs la délivrance et aux aveugles rendu la vue. Nous te bénissons. Amen.
Et nous poursuivons cette louange par le chant du psaume 86. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 86. Nous prenons place pour entendre Maëva qui nous fait retentir ces paroles du livre du Deutéronome qui seront pour nous ce matin l'expression de la volonté de Dieu.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui.
C'est Toscane qui nous conduit maintenant dans la prière.
Éternel notre Dieu, nous nous présentons devant toi en vérité, avec nos élans et nos hésitations, avec nos réussites et nos échecs, avec notre éclat et nos zones d'ombre, avec nos enthousiasmes et nos déceptions. Et nous voulons te demander pardon. Pardon pour ce que nous aurions dû faire et nous n'avons pas fait. Pardon pour ce que nous aurions dû dire et n'avons pas dit. Pardon pour ce que nous aurions dû penser et n'avons pas pensé. Fais-nous grâce, Dieu bienveillant. Amen.
Héloïse nous proclame maintenant quelques paroles de grâce issues du livre du prophète Ésaïe.
Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Peuple de Dieu, comptez sur le Seigneur, car il est bon. C'est lui qui te délivre de toutes tes fautes.
C'est Diane maintenant qui va nous proposer quelques paroles pour confesser notre foi. Je vous invite à vous lever pour vous associer à ces mots empruntés au pasteur Martin Luther King.
Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre nouvelle. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot affectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leurs esprits, les qualités et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois à la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Avec les enfants de l'éducation biblique, nous poursuivons donc l'évangile selon Matthieu. Et nous allons chercher donc ce que Jésus nous propose. En particulier, on voit dans le chapitre 4, les premiers mots que Jésus prononce, c'est pour annoncer le royaume de Dieu, que le royaume s'est approché. Voilà ce que nous dit ce passage au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez de mentalité, car le royaume des cieux s'est approché. » Jésus parcourait ainsi toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors après, au début du chapitre 5, quelques lignes après, Jésus explique dans le sermon sur la montagne, et il nous dit que le royaume des cieux non seulement s'est approché, mais qu'il est là, présent, et qu'on peut l'avoir. Et donc que ce n'est pas une promesse pour dans 1000 ans, ni pour demain, mais au présent. Donc au début du chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors d'accord, bon, mais qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, puisque c'est si important pour Jésus? Alors heureusement, Jésus nous l'explique un peu, en fait. Il nous l'explique joliment, un peu plus loin dans l'Évangile, avec 2 petites histoires. Donc au chapitre 13, les versets 44 et 46. Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache à nouveau, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il avait et il achète ce champ. » Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de ma vie tout entière. Alors je vous propose de chanter ensemble le cantique 232, les trois strophes de ce cantique 232, « Les cieux racontent ta grandeur ». Alors on ne croit pas le connaître, mais en fait c'est les paroles du psaume 119 qui sont mises sur un cantique que nous connaissons bien, « Brillante étoile du matin ». Mais là c'est le 232 que nous chantons pour commencer à méditer sur ces paroles de la Bible. Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer afin de mieux te connaître et de t'accueillir. Aide-nous donc à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacune et chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable bonheur de vivre et pour nous aider à être une bénédiction pour d'autres. Si vous interrogez les gens dans la rue et que vous leur demandez qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, ils diront bah, c'est le paradis, c'est là où les gens qui ont de la chance vont après la mort. Dans l'évangile, ça ne peut pas être ça. Nous l'avons entendu, Jésus ne parle pas du royaume des cieux comme un lieu où on ira dans l'avenir, mais il en parle comme si nous pouvions avoir le royaume des cieux maintenant, alors que nous sommes sur terre. Il nous faut donc oublier tout ce que la foule pense qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pour découvrir ce dont Jésus parle et qui constitue manifestement cette bonne nouvelle, cet évangile qu'il nous adresse pour que nous ayons une vie belle, bonne, joyeuse sur terre, pour commencer. Ensuite, on verra pour la suite. Alors Jésus nous explique ce qu'est le royaume des cieux, qui est si important pour lui. Et on l'a entendu, il en parle d'une façon curieuse et amusante, sous forme de petits contes. Il ne nous en parle en fait jamais autrement du royaume des cieux. Alors c'est quand même curieux pour quelque chose qui est si essentiel pour lui. Mais c'est révélateur. Jésus ne nous communique pas un savoir sur le royaume des cieux, mais il nous donne à le ressentir, à le penser. À le ressentir car quand il nous fait imaginer un ouvrier agricole, un ouvrier paysan qui découvre un trésor en faisant son dur travail dans les champs, on peut ressentir, on peut imaginer la joie de cet homme avec sa vie complètement transformée par ce trésor. Eh bien, c'est cette joie que nous fait ressentir Jésus avec ce tout petit conte, et c'est cette nouvelle vie que Jésus associe à cette notion de royaume des cieux. Alors, il veut nous faire ressentir un peu cela avec ce conte, il veut nous le faire espérer, attendre, à travers ces petites histoires. Et puis, Jésus nous donne aussi à penser, à nous creuser la tête. Car le conte commence tout normalement, mais ensuite il y a toujours quelque chose de surprenant dans ces petits contes qu'il nous donne, quelque chose qui ne semble pas logique du tout. Qu'est-ce que Jésus cherche à faire ainsi? Donc pas seulement à nous faire rêver, mais à réveiller notre intelligence et à nous donner ainsi la chance d'avoir un regard neuf. Alors selon Jésus, si on regarde de près, le royaume de Dieu est donc semblable à une petite histoire. Qu'est-ce qui arrive? Tout commence de façon très ordinaire. Un paysan dans son champ, un commerçant qui cherche de la bonne marchandise. Bon. Il y a ensuite une surprise, quelque chose d'extraordinaire qui survient dans cette vie ordinaire, un trésor qui est trouvé, une perle absolument géniale. Jusque-là, même s'il y a une surprise dans les deux histoires, il y a quelque chose, ça reste logique finalement. Par contre, la troisième partie de ces histoires qu'invente Jésus sont tout à fait étranges, surréalistes. Le paysan semble ne pas s'intéresser à ce trésor qu'il vient de trouver, pop, il le recache dans la terre, et c'est le champ qu'il va acheter. Et puis, le marchand, il choisit de perdre son commerce en restant à admirer sa perle. Alors, tout commence par une vie normale. La structure de ces petits contes donnés par Jésus, ça nous donne des pistes pour connaître le royaume des cieux. Tout commence par cette vie normale, comme ce paysan et ce commerçant que Jésus nous donne à imaginer et la variété des situations qu'évoque Jésus, ça suggère que la bonne surprise de la découverte d'un trésor extraordinaire est faite pour arriver à tout le monde et donc à nous aussi. Un trésor avait été caché dans le champ, nous dit Jésus. Alors dans la Bible, quand il y a ainsi un verbe au passif dont le sujet n'est pas indiqué, un trésor avait été caché dans le champ. Ça sous-entend que c'est Dieu qui en est l'auteur. Ça s'appelle un passif théologique. Et donc Dieu a caché un extraordinaire trésor dans notre existence. Nous avons les pieds dessus. Et puis au début, comme ce paysan, nous ne le voyons pas, nous ne le connaissons pas, nous n'imaginons même pas que notre vie pourrait en être complètement bouleversée. Mais le trésor est là, sous nos pieds, invisible. Notre vie et notre personne semblent complètement ordinaires comme la poussière du sol. Mais il y a aussi quelque chose d'inestimable dans ce champ, caché par la poussière. Le paysan et le commerçant ne font rien de spécial pour trouver ce trésor, non. Ils vivent leur vie tranquillement. Et donc Jésus ne nous donne pas des choses absolument prodigieuses à faire pour gagner le royaume des cieux, pour gagner le salut. Il n'y a pas des « il faut croire ceci, il faut faire cela ». Il n'y a pas de rite, pas de sacrifice. Juste à vivre, être soi-même, avancer tranquillement, son petit bonhomme de chemin, tous les jours, le paysan travaillant la terre, le commerçant cherchant sa marchandise, ses clients peut-être, le boulanger pétrissant son pain, le berger gardant ses brebis, le médecin soignant ses malades, le pauvre mendiant son pain, chacun là où les hasards de l'existence et les choix personnels l'ont conduit. Par contre, ce que les héros de ces deux histoires de Jésus font de bien, c'est de se laisser surprendre par la surprise, de laisser s'émerveiller quand ces héros rencontrent le trésor caché. Et c'est pas si évident que ça, en fait, de s'ouvrir à une surprise. Le paysan aurait pu ne pas faire attention quand sa fourche se rencontre dans la terre une sorte de vieille casserole. Il aurait pu simplement la balancer sur le tas de cailloux qui est au bord du champ. Le marchand de perles aurait pu se dire, en trouvant cette perle 100 fois plus grosse et plus belle que toutes les perles qu'il a jamais rencontrées dans son métier de marchand de perles, en disant, c'est pas possible en fait. Forcément, c'est une perle en plastique qui a été cachée comme ça et qu'on essaye de me refiler comme une perle extraordinaire. Eh bien non, les personnes des petits contes de Jésus se laissent surprendre par le trésor, par la surprise. Quand elles le trouvent, elles sautent de joie et elles en tiennent compte et tout va changer. Alors tant de personnes passent à côté de leur trésor et restent dans une vie qu'ils pensent être ordinaire, alors qu'elle est faite, cette vie, pour être un vrai conte de fées. C'est ce que nous dit Jésus avec ses histoires. Voilà pourquoi est faite notre vie. Tant de personnes passent à côté d'immenses bénédictions, passent à côté de personnes extraordinaires qu'elles croisent sans lever le visage, passent à côté de ce trésor qu'est la foi, du trésor qu'est la connaissance de l'amour de Dieu. Oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant, ça ne change rien. Ou passe à côté du trésor qu'est la joie d'aimer la vie, malgré tout, malgré ce qui peut cacher les extraordinaires côtés de la vie humaine, de la vie en ce monde. Le trésor qu'est le fait d'aimer les personnes qu'on croise, le trésor qu'est la joie de faire un peu de bien et de recevoir un peu de bien de ceux qui nous entourent. Alors oui, des trésors, il y en a plein. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans le champ qu'une personne a trouvé, nous dit Jésus. Alors pour l'instant, dans ce début du conte, on pense que le royaume des cieux est le trésor et que Jésus nous dit qu'il faut tout quitter pour vivre de ce trésor qu'est la foi en Dieu. Eh bien non, c'est là que Jésus nous surprend encore une fois. Si vous trouviez un trésor dans un champ, par exemple en creusant un trou pour planter des patates ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que feraient 99,99999% des gens? Ils vont sauter de joie en l'air, ils vont mettre le trésor sur leurs bras, ils vont partir courir et vivre comme bon leur semble, aux Bahamas ou je ne sais quoi. Eh bien, dans l'histoire de Jésus, pas du tout, bien au contraire. La personne qui a trouvé le trésor la remet en terre, et va s'acheter le champ. Avec quoi? Mystère et boule de gomme, puisqu'effectivement c'était un ouvrier paysan qui n'a peut-être pas de quoi acheter non plus des hectares. En tout cas, quelle drôle d'idée! Quel sens est-ce que cela peut avoir et pourquoi est-ce que Jésus nous parle ainsi du royaume des cieux? En fait, c'est si surprenant que bien des commentaires de ce passage préfèrent ne pas lire ce qui est vraiment marqué dans l'histoire, ce que dit Jésus. Et ils interprètent cette parabole comme si la personne qui avait trouvé le trésor laissait le champ du monde et partait avec le trésor de la foi pour vivre complètement tourné vers Dieu dans des alléluia sans fin. Mais non, en fait, ce n'est pas ce que dit ce texte. Et donc nous pensions que Jésus disait que le royaume des cieux est comme un trésor. On peut effectivement comprendre le début de la parabole comme ça. Mais en fait, non, le royaume de Dieu n'est pas comme un trésor, sinon la personne s'en serait emparée et resterait avec son trésor sous le bras, quitterait tout le reste. Et donc le royaume de Dieu, en fait, c'est l'histoire tout entière. L'histoire de Dieu est comme une histoire de vie ordinaire qui devient extraordinaire. Et le trésor n'est là que comme le déclencheur, finalement. Le royaume des cieux n'est pas un lieu, ce n'est pas un objet, mais c'est comme une histoire. Une histoire où un homme a une joie intense, s'enthousiasme, se met à voir la vie tout autrement et se met à agir en conséquence. Alors pourquoi est-ce que le paysan de cette histoire de Jésus mise tout sur le champ que contient le trésor plutôt que de partir avec le trésor et de faire n'importe quoi ? C'est que le champ dont parle ici Jésus, ça évoque notre vie, ça évoque notre être, ça évoque notre existence en ce monde, bon ça on le comprend assez facilement. Et donc ce trésor qu'est d'avoir trouvé Dieu finalement, ce trésor d'avoir fait trouver le côté extraordinaire de la vie, il fait aimer ce monde que Dieu aime, il nous fait découvrir sa beauté. Et donc l'expérience de la rencontre avec Dieu, l'expérience de la découverte du trésor, ne donne pas envie de quitter le monde, mais de l'aimer autrement, de l'aimer vraiment. Et c'est cela finalement le royaume de Dieu, c'est quand Dieu arrive à nous faire aimer la vie en vérité. Alors comme ce paysan, on aime le champ et on aime que ce trésor soit là, en plein champ, en plein milieu du champ. Le théologien Paul Tillich parle ainsi de la foi comme la découverte de la profondeur de l'existence, la profondeur de l'être. Cette dimension de la verticalité est en effet évoquée ici à la fois par l'expérience du trésor qui était enfoui sous la surface des choses et dans le fait que le royaume de Dieu est appelé le royaume des cieux, c'est-à-dire élevé dans une autre dimension de la réalité, pas hors de la réalité, mais dans une autre dimension de profondeur ou d'élévation. Alors oui, le trésor qu'est Dieu, ce n'est pas un objet parmi les autres, finalement, qu'on pourrait comparer ou même qu'on pourrait préférer au champ, ou à la vigne, ou à ses proches, ou à son travail, sa fortune, ses loisirs, ses passions. Ça... Non, Dieu est d'un autre ordre, celui de la profondeur, ou celui de la visée ultime. Il est ce qui va donner sens, valeur, dignité, il est ce qui porte une espérance, ce qui donne envie d'aimer parfois malgré tout, mais d'aimer son champ, sa vigne, ses proches, son travail, sa fortune, ses loisirs et de les vivre tout autrement finalement. Avoir la foi, c'est s'ouvrir à cette dimension de la profondeur. Et cela donne envie de dire oui à la vie avec grande joie, comme ce paysan, comme ce chercheur de perles. Et cela permet de voir tout autrement en perspective les êtres, les événements, les choses de la vie. La foi peut venir, alors après avoir fait l'expérience d'avoir rencontré le trésor dans son champ, ce changement de perspective et de la vie n'est alors pas un devoir en disant « vous devez absolument ». Non, c'est aussi naturel alors que de se réjouir quand on a découvert un trésor ou quand on a gagné à la loterie, si vous voulez. Ce n'est pas un devoir de se réjouir quand on gagne à la loterie, c'est tout juste naturel. Donc la foi, c'est comme ça finalement, quelque chose qu'on découvre parfois comme par surprise. Donc j'ai rencontré cette semaine une jeune femme de 31 ans qui, elle, c'est à 15 ans, alors que sa famille est complètement athée, a tout d'un coup senti quelque chose qui vient de Dieu et qui l'accompagne. Elle a exactement senti et depuis 15 ans, elle cherche, elle creuse cela et enfin, elle désire le creuser avec nous en partie et puis en partie aussi tout seul. Donc la foi, ça peut venir comme ça, comme tout d'un coup, une expérience extraordinaire qui change notre vie tout ordinaire. Mais la foi, ça peut venir aussi peu à peu dans le fait de travailler ce champ qu'est notre existence et puis dans la capacité à s'émerveiller devant le trésor inattendu. Alors voilà pourquoi l'homme de cette première histoire ne part pas avec le trésor mais le remet en terre, car c'est là sa place. Dieu au cœur de notre vie, Dieu comme la vie de notre vie. On ne peut alors pas découvrir Dieu comme un trésor et tourner le dos à la vie. Au contraire, on aime à la fois et Dieu et encore plus la vie, encore plus ceux qui nous entourent et cela donne envie de s'investir encore plus intensément dans le champ du monde. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre quelque chose comme cette histoire à notre façon, soit par grand bond en avant, soit par petites touches, petites découvertes. Parfois c'est un grand trésor que nous trouvons, parfois ce sont des petites pièces d'or qui jalonnent notre histoire de rencontres, de surprises. La connaissance de Dieu n'est pas le royaume de Dieu, mais cela peut aider à l'attendre et à l'accueillir. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. Ben non. C'est un simple travail dans le champ de notre être et dans notre monde, en piochant un petit peu. Alors c'est déjà quand même une ouverture à cette dimension de la profondeur. Quand on pioche un peu, on creuse quelques centimètres. C'est quand même une disponibilité à la découverte du trésor mis par Dieu en profondeur de notre monde. Mais Jésus ajoute une seconde histoire extraordinaire pour nous dire ce qu'est le royaume de Dieu. Cette fois, le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Donc le royaume est alors une recherche de beauté. Dieu est cet amateur, je crois, qui cherche de belles perles et qui nous trouve et qui nous reconnaît comme une perle précieuse, unique. Et c'est Dieu, je crois, qui saute de joie en voyant notre personnalité et ce que nous pourrions devenir, en fait. Dieu est cet amateur de beauté qui donne tout pour nous. C'est pourquoi Jésus nous dit que le royaume de Dieu s'est déjà approché de nous. Comme ce marchand de perles nous a trouvés, nous a reconnus et nous gardera. Pourtant, au départ, nous n'étions, excusez-moi, que comme une huître. C'est pas bien beau, une huître. C'est pas bien intelligent, en fait. C'est si peu vivant. Mais celui qui sait y voir comme Dieu, sait voir à l'intérieur la profondeur des êtres, il peut se rendre compte qu'il y a dans cette huître une perle d'un magnifique Orient. Alors qu'est-ce qui donne éclat à une perle? C'est la multitude des couches de nacre qui entourent un simple petit grain de sable. Notre perle à nous, elle est faite de multitudes petites couches d'amour que nous avons reçues, de rencontres, de gens qui nous entouraient, de belles pensées, de bonté, d'admiration, de prière, d'espérance, de services rendus parfois, de services reçus d'autres fois. Voilà ce que nous sommes, une perle de grand prix, faite couche après couche, patience après patience, comme une perle formidable d'un Orient magnifique, une perle de grand prix. En tout cas, aux yeux de Dieu, il nous voit comme ça et il s'y connaît en perle, alors que nous, nous croyons encore n'être qu'une huître. Il ne voit plus l'huître que nous sommes aussi, ni nos imperfections, mais il voit comme une lumière en nous, une lumière de nacre, une lumière que nous sommes et qui ne brillerait pas finalement si nous ne la brillons, faisons pas briller nous-mêmes, et qui ne brillerait pas s'il ne nous avait pas ouvert finalement comme une huître. Le royaume des cieux, c'est ce Dieu qui aime la beauté, ce Dieu qui la cherche, qui la trouve, qui nous trouve, qui nous ouvre et qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde, toi tu es la lumière du monde, que ta lumière brille. » Amen. Grand, grand merci à vous, donc Milton Kaur, pour cette pièce, donc The Lord Bless You and Keep You. Alors je vous propose de chanter à notre tour notre reconnaissance en prenant le cantique 202 dans le petit recueil Louanges et prières, nos cœurs pleins de reconnaissance. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. Donc les jeunes du Milton Abbey College vont encore nous chanter donc une pièce après, entre le Notre Père et la Bénédiction, donc vous pourrez vous rasseoir après le Notre Père. Ils donnent un concert demain, lundi à 11h à Notre-Dame de Paris. Donc vous pouvez aller donc les entendre, les écouter, les soutenir demain à 11h. Un grand merci au chœur de l'oratoire, à Jean-Dominique Pasquet, à Fabien Aubé et puis donc aux jeunes donc, de ce collège anglais. À la sortie de ce culte, il y a un temps de convivialité, un moment, une occasion aussi de se rencontrer, de connaître un peu des personnes de l'oratoire dans la grande sacristie qui est derrière la porte, qui est donc au fond du chœur, dans le chevet. Il y a l'éducation biblique, comme vous le voyez, donc on reste ensemble jusqu'à 16h avec les jeunes. Demain, à 19h30, il y a le grec biblique des progressants. Le mardi, il y a le grec biblique des débutants, à 19h30 aussi. Et puis à 20h, mardi, il y a une conférence débat sur les enjeux géopolitiques et de l'instrumentalisation des religions monothéistes par Bellatrice Giblin, directrice de l'Institut français de géopolitique, directrice d'Hérodote, qui est une revue de géographie et de géopolitique. Donc je pense qu'effectivement c'est tout à fait d'actualité, intéressant et accessible comme conférence sur ces questions des religions dans la géopolitique. Mercredi soir, il y a le groupe biblique commun Oratoire Saint-Eustache. Ce coup-là, on se trouve à Saint-Eustache, donc c'est impasse Saint-Eustache sur l'arrière de l'église, à 20h, mercredi, donc toujours sur la chair, le monde et l'esprit, donc là sur un passage de la lettre aux Galates. Jeudi à 19h30, il y a la répétition du chœur, vous pouvez encore les rejoindre si vous avez donc envie de chanter. Samedi à 10h, il y a l'hébreu biblique. Et puis ici même, il y a un concert spirituel à 18h, comme tous les troisièmes samedis du mois, avec une cantate de Jean-Sébastien Bach, la cantate 126, et puis trois pièces de Kirchenmusik de Buxtehude, avec bien sûr, comme toujours, une petite prédication au milieu, une méditation de 8 minutes, et puis une entrée libre et une sortie payante. Bon, quand même. Alors dimanche prochain, c'est un culte avec le pasteur James Woody qui va nous donner un culte. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de l'offrande. C'est l'offrande va aller aux plus démunis par le biais donc de l'entraide de l'oratoire. Nous prions Dieu. Ô Père, toi qui es fidèle et qui nous soutiens chaque jour sur nos routes humaines, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos difficultés, de nos peurs, pour que nous puissions te célébrer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions aussi proclamer ton nom à ceux qui doutent, ceux qui désespèrent, et dire la grâce que tu nous as manifestée en Christ. Nous pensons avec toi, nous pensons grâce à toi, à ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, des souffrances parfois insupportables. Nous pensons à ceux qui sont seuls. Nous pensons à ceux qui te cherchent, qui t'espèrent, qui te méconnaissent, qui te craignent. Oui, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, que toute la terre soit vivifiée par ta présence. Rends-nous vivants, joyeux, serviables. Béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez prendre place pour qu'on entende encore un petit peu le Milton Abbé Chœur. grand merci. Alors à la sortie, vous pourrez laisser les cantiques en bout de rang de chaises, comme ça, ça fluidifie la sortie, ou bien là, pour aller donc au petit pot fraternel de sortie. Je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu qui nous est adressée comme, selon les paroles de la Bible, donc au singulier. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Ô que tout être te bénisse, Seigneur, Dieu de paix.